Bonjour mon ami, je suis heureux que vous m'ayez rejoint. Si vous avez une Bible ou un appareil électronique contenant la Bible, je vous invite à le prendre. Nous allons nous plonger ensemble dans la parole et nous allons découvrir des vérités extraordinaires et des clés données par l'apôtre Pierre dans ses écrits qui nous aideront à vivre comme Dieu désire que nous vivions, d'une manière qui plaise au Seigneur. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous ne voudrez pas manquer cela. Bonjour, je m'appelle Bayless Conley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude. Qu'il s'agisse de problèmes financiers, de difficultés relationnelles, d'une crise de santé ou de la recherche d'un but, une chose est sûre, Dieu vous voit, il vous aime. Et quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, il a les réponses. 1 Pierre 1,13. C'est pourquoi, tenez votre intelligence en éveil. Soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Quand il est question de l'apparition de Jésus-Christ, il s'agit simplement de son retour, quand Jésus reviendra. Quand il reviendra, notre rédemption sera complète et elle dépassera tout ce que vous ou moi avons jamais imaginé. Une grâce si grande et si vaste qu'elle ne peut être calculée nous sera accordée lors de l'apparition de Jésus-Christ. Elle deviendra nôtre lorsque Jésus apparaîtra. Paul a écrit à propos de ce même jour en 1 Corinthiens 13-12. Écoutez-le. Aujourd'hui, nous voyons les choses de manière imparfaite, comme des reflets mystérieux dans un miroir. Mais alors nous verrons tout avec une clarté parfaite. Tout ce que je sais aujourd'hui est partiel et incomplet, mais alors je connaîtrai tout complètement, tout comme Dieu me connaît complètement aujourd'hui. La grâce dont nous avons déjà fait l'expérience dans notre vie sera surpassée par une grâce encore plus grande lorsque Jésus reviendra. La paix, la joie, la force, le réconfort et la plénitude sont autant de facettes de la grâce de Dieu. La beauté, l'harmonie, le contentement, la créativité, la crainte révérentielle et l'émerveillement ont tous été jusqu'à présent partiels et incomplets, troubles et obscurs. Mais alors, il y aura une clarté absolue sans les limitations, les contraintes ou les barrières que nous connaissons dans ce monde. Mais jusqu'à ce que ce jour arrive et que nous expérimentions la plénitude de tout ce que Dieu a pour nous, que sommes-nous censés faire? Il nous le dit dans les versets suivants, 1 Pierre 1,14 à 16. En enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi je suis saint. Jusqu'au jour où Christ reviendra, nous devons mener une vie sainte. Cela signifie être mis à part et consacré à Dieu. Dieu dit, « Je suis saint, soyez saint. » En enfant obéissant, les enfants doivent agir comme leur père. L'autre jour, j'étais assis en train d'étudier et quelqu'un nous avait offert une boîte de bonbons Sees Candies. Janet était en train de lire l'extérieur de la boîte lorsque tout à coup, elle s'exclame, « Bayless, les bonbons Sees Candies existent depuis 100 ans !» J'ai répondu, « Tu ferais mieux de vérifier s'ils ne sont pas moisis. » Elle a levé les yeux au ciel et m'a dit, « Tu deviens comme ton père. » C'est exactement ce que mon père aurait dit. Dans le bon sens du terme, je deviens comme mon père et je m'en rends compte de plus en plus à mesure que je vieillis. J'espère que je deviens aussi plus semblable à mon Père céleste à mesure que je grandis dans la grâce et que j'apprends la parole de Dieu. Il est saint. Nous devons être saints. Notre foi et notre comportement doivent aller de pair. Mais pourquoi est-il si important que notre comportement soit en accord avec notre foi? Pourquoi devons-nous permettre au Saint-Esprit de nous conformer quotidiennement à l'image de Jésus, plutôt que de laisser l'Esprit du siècle nous conformer à la façon dont le monde pense, agit et parle? Les Allemands ont un mot pour désigner cela. L'esprit du siècle ou l'esprit de la culture moderne s'appelle Zeitgeist. L'esprit du temps moderne est, il est à l'œuvre, Zeit, temps, Geist, esprit. C'est l'esprit du temps. Il existe un esprit de la culture moderne qui vous pousse, vous attire et essaie de vous pousser à vous conformer au monde. Mais il existe un autre esprit, le Heiliger Geist, le Saint-Esprit. Si vous ne vous soumettez pas au Heiliger Geist, mon ami, le Zeitgeist agira dans votre vie. Ce sera l'un ou l'autre, ce sera l'esprit du siècle ou ce sera le Saint-Esprit. Ici, dans les versets suivants, il nous donne quelques raisons pour lesquelles il est si important que nous menions une vie entièrement séparée et consacrée. Je continue ma lecture en 1 Pierre 1, 17 à 21. Et si c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Il nous donne ici deux raisons, et je voudrais commencer par la deuxième. La première raison pour laquelle il est si important que notre comportement et notre foi soient en accord et que nous menions une vie consacrée à Dieu est que le prix payé pour nous a été très élevé. Nous n'avons pas été rachetés avec de l'argent ou de l'or, mais avec le précieux sang de Jésus. Par simple curiosité, l'autre jour, je suis allé sur Internet pour chercher des montres de luxe. J'ai trouvé une page consacrée aux montres Rolex. Beaucoup de ces montres coûtaient 50 000 ou 60 000 dollars pièce. Certaines coûtaient 100 000, 130 000 ou 150 000 dollars pièce. Certaines coûtaient 250 000 dollars. L'une d'elles coûtait 560 000 dollars. Il y avait une montre Rolex qui coûtait 1,3 million de dollars pour une seule montre. Vous ne paierez pas un prix aussi élevé pour une montre pour ensuite la jeter dans la boue. Si vous frappez à la porte d'un ami et qu'il ne répond pas, allez-vous retirer votre montre à 1,3 million de dollars et l'utiliser comme heurtoir? Non, vous ne ferez pas cela. Jésus n'a pas versé son sang pour que nous continuions à nous rouler dans la boue et le bourbier du péché de ce monde. Un prix très élevé a été payé pour vous, mon ami. Il rend la montre la plus chère du monde insignifiante comparée à ce qu'il a versé. Il donne une deuxième raison dans ces versets. Car même si nous sommes rachetés, nous serons jugés et récompensés pour nos œuvres, notre mode de vie et nos attitudes. 1 Pierre 1:17. Et si c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Les Écritures en parlent beaucoup. Il ne s'agit pas du jugement du grand trône blanc décrit dans Apocalypse 20 qui concerne les incroyants. Chaque croyant, chacun d'entre nous, se tiendra devant le tribunal de Christ et rendra compte de sa vie, de ses motivations, des choses qui l'ont occupé et de ses paroles. Jésus a dit que nous rendrons compte de chaque mot le jour du jugement, des œuvres que nous avons accomplies et des raisons pour lesquelles nous les avons accomplies. Paul en parle en 1 Corinthiens 3, mais je voudrais vous lire ses paroles en 2 Corinthiens 5, 8 à 10. Nous ne craignons pas la mort, mais nous sommes tout à fait disposés à mourir, car alors nous serons chez nous avec le Seigneur. Notre but est donc de lui plaire en tout ce que nous faisons, que nous soyons ici dans ce corps ou loin de ce corps, et avec lui dans les cieux. Car il nous faudra tous comparaître devant Christ pour être jugés et avoir notre vie mise à nu devant lui. Chacun de nous recevra ce qu'il mérite pour les bonnes ou les mauvaises actions qu'il a accomplies dans son corps terrestre. Mon ami, nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Nous n'avons pas l'éternité devant nous. Cette vie est brève. Avez-vous remarqué ce qu'il a dit? Écoutez le langage utilisé dans ce verset. Il dit que nous devons nous conduire avec une crainte respectueuse envers Dieu pendant notre séjour sur la terre, car nous serons jugés. Pendant notre séjour sur la terre, le mot « séjour » signifie « pèlerinage ». Il fait littéralement référence à un court séjour dans un endroit qui n'est pas votre domicile. Jacques 4 affirme que notre vie est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Mon père est décédé il y a quelques années, et il vivait entre notre maison et l'église. Ainsi, pratiquement 3 à 4 fois par semaine, lorsque je rentrais chez moi, je m'arrêtais chez mon père et je le houspillais un peu, juste pour passer du temps avec lui et discuter. Pendant une année entière, je tournais dans la rue de mon père, puis je me souvenais, il n'est plus là. J'avais pris l'habitude d'aller voir mon père. Je passais littéralement devant sa maison, puis je me disais, il est parti. 7 mois plus tard, ma mère, elle est partie. De nombreux amis, partis. Plusieurs de mes cousins, partis. Il n'y a pas si longtemps, mon beau-frère. Un jour, vous allez vous demander, où est le pasteur Bayless ? Parti. Ce n'est qu'un vestiaire pour l'éternité, mon ami. Paul a dit que nous devons nous conduire pendant notre séjour sur la terre avec une conscience profonde et une crainte respectueuse envers Dieu. Ensuite, une troisième raison nous est donnée. Nous devons mener une vie sainte et mise à part, car le monde nous observe. L'idée selon laquelle notre séjour ici-bas est temporaire est reprise dans le deuxième chapitre. Il dit en 1 Pierre 2, 11 et 12, « Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Le mot « remarquer » signifie « regarder et évaluer soigneusement ». Ils observent votre conduite et y réfléchissent profondément. Le monde vous observe. Peu après avoir été sauvé, je me suis fait un ami. C'était un chrétien formidable. Je le trouvais très vieux. Il devait avoir environ 42 ans. Mais j'en avais 21. Pour moi, 42 ans, c'était vieux. Il travaillait de nuit dans une fonderie. Il aimait le Seigneur. Sa femme et ses enfants adolescents aimaient le Seigneur. Son petit frère venait lui rendre visite. Son petit frère avait environ 39 ans. Le petit frère n'était pas sauvé. Il n'était pas chrétien. Je ne sais pas pourquoi mon ami a raconté mon histoire à son petit frère et lui a dit que je traversais une période difficile. J'étais sans emploi et c'était compliqué financièrement. Cela m'a vraiment surpris. Son petit frère m'a donné 20 dollars. Cela peut sembler peu aujourd'hui, mais c'était beaucoup à l'époque. L'essence coûtait 55 cents le gallon. Mon petit microbus de 1963 avait un réservoir de 10,5 gallons. Je pouvais faire le plein pour moins de 6 dollars. 20 dollars, c'était beaucoup à l'époque. Ce soir-là, nous sommes tous allés écouter un évangéliste. Son frère était venu avec lui et ils se sont tous assis derrière moi. Donc mon ami, sa femme, leurs enfants et son frère sont assis derrière moi. Le moment des offrandes arrive et ils font passer le panier. J'ai eu l'impression que le Saint-Esprit me murmurait « Mets tout dedans ». J'ai donc mis les 20 dollars dans le panier. Après le service, le frère de mon ami s'est approché de moi et m'a demandé « Qu'as-tu fait des 20 dollars que je t'ai donnés ?»« Pourquoi ? Tu les as mis dans le panier, n'est-ce pas ?»« Et si c'était le cas ?»« Je sais que c'est le cas, je t'ai vu. » Je me suis dit que j'aurais dû être un peu plus discret. Il m'a dit, « Tu crois à tout ça, n'est-ce pas ? Tu es comme mon frère, il parle toujours de Dieu qui pourvoit à ses besoins et dit qu'il fait confiance à Dieu. Tu crois la même chose ?» J'ai répondu, « Oui, c'est vrai. » Puis, contre toute attente, il me dit, « Je veux ce que tu as. Veux-tu prier avec moi ?» J'ai prié avec lui et je l'ai conduit au Seigneur. Je ne savais pas qu'il m'observait et il m'a dit plus tard, « Je t'ai donné ces 20 dollars parce que je savais qu'il y aurait une collecte et je voulais voir comment tu réagirais. » Le monde nous observe. Il observe comment nous vivons et ce que nous faisons. Comment faire? Comment mener une vie sainte qui honore Dieu et témoigne de notre foi? Est-ce en serrant les dents et en mobilisant toute notre volonté? Non, ce n'est pas par la seule force de notre volonté. Cela est terriblement insuffisant. Nous n'avons pas été sauvés ainsi et nous ne sommes pas appelés à vivre ainsi. Dans les versets que nous examinons, il nous donne deux clés qui nous expliquent comment y parvenir. Voici la première. Nous devons renouveler notre intelligence et nourrir notre cœur de la parole de Dieu. Nous devons renouveler notre intelligence et nourrir notre cœur de la parole de Dieu. Le premier verset que nous avons lu en 1 Pierre 1,13 disait « Tenez votre intelligence en éveil ». C'était une expression idiomatique de l'époque qui signifiait « Préparez-vous à travailler ». Quand ils allaient travailler, ils portaient de longues tuniques. Ils les rentraient dans leur ceinture afin d'être libres de travailler. Notre expression actuelle signifie la même chose. Retroussez vos manches et préparez-vous. Retroussez vos manches et préparez-vous à travailler. Le genre de travail dont il parle concerne notre façon de penser. Tenez votre intelligence en éveil, retroussez vos manches et préparez-vous à travailler sur la façon de penser. Remarquez qu'il aborde notre façon de penser avant d'aborder nos actions. Il dit « Travaillez sur votre façon de penser », puis il a dit « Menez une vie sainte consacrée à Dieu ». Il a d'abord abordé la façon de penser. Il a dit « Ne vous conformez pas à ce monde et ne vivez pas comme autrefois. Menez une vie à part. » Le mot « conformer » se trouve ailleurs dans le Nouveau Testament. Je parie que vous savez où. Romains 12:2, c'est le même mot grec. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au monde actuel, à ses priorités, à ses valeurs, à son langage et à ses actions, mais soyez transformés. Le mot transformer vient du grec métamorpho, dont le mot français métamorphose est dérivé. Il signifie littéralement laisser ce qui est à l'intérieur se manifester à l'extérieur. Je suis né de nouveau, j'ai reçu la vie de Dieu dans mon esprit. La Bible dit que l'amour de Dieu a été déversé dans mon cœur. Dieu a donné à chaque homme une mesure de foi. Il y a de bonnes choses en moi. L'apôtre Paul a dit « Je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur ». Dieu a donc mis de bonnes choses, des choses saintes, des choses éternelles dans mon cœur. Comment faire sortir ce qui est à l'intérieur? Comment prendre ce que Dieu a mis ici et le traduire dans la façon dont j'aime ma femme, mes enfants, dans ma façon de travailler, d'interagir avec les autres et de traiter mes ennemis? Comment cela se produit-il? Comment vivre une vie transformée? En renouvelant mon intelligence, je dois changer ma façon de penser. Mon ami, il est important de bien choisir où vous vous nourrissez. Les choses que vous écoutez font bel et bien une différence dans votre vie. Parce que si nous ne sommes pas continuellement dans un processus de transformation par le renouvellement de notre intelligence, vous devez réaliser que le monde, votre chair et le diable vont travailler d'arrache-pied pour que vous vous conformiez. Si vous n'êtes pas transformé, vous êtes conformé. Ce sera l'un ou l'autre. Remarquez qu'il a dit « Retroussez vos manches, cela va demander du travail ». Vous devez être amoureux de votre Bible, vous devez passer du temps dans la parole. Jésus a dit « Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Elles sont chargées d'une énergie surnaturelle. Si vous ne le faites pas, vous serez pour toujours un chrétien pénible et peu influent qui reflète l'esprit du monde au lieu de refléter Christ. Et Dieu a mieux à vous offrir. » Jésus a dit de ses disciples, « Ils ne sont pas du monde, tout comme je ne suis pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous n'en sommes pas. » C'est comme si un bateau était sur l'eau et que l'eau commençait à entrer dans le bateau. C'est un problème. Je suis dans le monde, mais je n'en suis pas. Si le monde commence à entrer en moi, nous avons un problème. Je vais avoir de mauvaises pensées, je vais avoir de mauvaises valeurs, je vais avoir de mauvaises priorités. Considérez ces versets des Écritures, Psaume 119:9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se conformant à ta parole? D'ailleurs, chers anciens, cela ne concerne pas seulement les jeunes. Comment un vieil homme ou une vieille femme rendra-t-il pur son sentier? En se conformant à la parole de Dieu. La parole de Dieu vous aidera à changer. La Bible dit de fuir les passions de la jeunesse, mais il ne faut pas être jeune pour avoir des passions de jeunesse. Vous n'avez pas à abandonner, vous n'avez pas à céder, nous pouvons gagner ce combat. Il poursuit au verset 11 du même psaume. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Jésus a prié en Jean 17:17, « Rends-les saints par ta vérité, enseigne-leur ta parole qui est vérité. » 1 Jean 2:14, « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. » Il n'y aura pas de force et il n'y aura pas de victoire si la parole de Dieu ne demeure pas dans notre cœur. Il est tellement important que vous vous plongiez dans la parole et que vous laissiez sa parole pénétrer en vous. Cela changera votre vie. Juste une petite réflexion en passant. Revenons à 1 Pierre 1:22. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité, qui est sa parole, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Il parle d'avoir une âme purifiée. Encore une fois, l'idée est de mener une vie sainte. Il parle donc d'une vie sainte et d'un amour ardent. Pas seulement l'un, mais les deux. Une vie sainte, un amour ardent. Nous avons besoin des deux. Nous avons besoin d'une norme de sainteté, mais nous avons aussi besoin d'un amour ardent, car l'amour sans norme de sainteté conduit à une vie désordonnée. J'entends cela souvent. Les gens mettent les chrétiens au défi en leur disant « Jésus n'est-il pas amour ?» Mais vous, vous n'aimez pas du tout le monde puisque vous n'êtes pas d'accord. L'amour ne signifie pas être d'accord ou accepter le péché. 1 Corinthiens 13:6 dit « L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. » Jésus a rencontré des gens dans leur péché, mais il n'a pas approuvé leur péché. Il leur a montré de la miséricorde et leur a dit « Va et ne pêche plus. » Donc si nous avons seulement de l'amour sans une norme de sainteté, cela mènera à une vie désordonnée et pécheresse. Mais d'un autre côté, une norme de sainteté sans amour mène seulement à un légalisme cruel qui vous tuera. Nous avons besoin de sainteté et d'amour. Nous avons besoin de vérité et nous avons besoin de grâce. Nous avons besoin des deux. Soit dit en passant, cela est gratuit. Le verset suivant, 1 Pierre 1:23. Vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. C'est ainsi que nous avons commencé cette vie, 1 Pierre 2:2. Comme des enfants nouveau-nés désiraient le lait pur de la parole, ainsi grâce à lui vous grandirez. C'est ainsi que nous mûrissons et continuons dans cette vie. Cela commence par naître de la parole. Nous passons de foi en foi, de gloire en gloire, en vivant selon sa parole. Première chose essentielle, vous devez renouveler votre intelligence et nourrir votre cœur par la parole. La deuxième chose essentielle, si nous voulons vivre une vie transformée, si nous voulons vivre avec sainteté devant Dieu, en manifestant notre foi, c'est que nous devons garder Jésus au centre de notre vie. Il doit rester au centre de notre vie, considérer ces courts versets que nous lisons. Le chapitre 1:13 parle de Jésus qui vient, le verset 19, Jésus qui a versé son précieux sang, le verset 20, Jésus qui a été prédestiné, le verset 21, Jésus qui a été ressuscité et glorifié. Chapitre 2:3, Jésus le Seigneur qui est bon, verset 4, Jésus, la pierre vivante choisie et précieuse devant Dieu, verset 5, Jésus par qui nous offrons des sacrifices spirituels à Dieu, verset 6, Jésus, la pierre angulaire. Verset 7, Jésus qui est précieux pour les croyants. Verset 8, Jésus qui est la pierre sur laquelle trébuchent ceux qui désobéissent volontairement. Verset 9, Jésus qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Rien que dans ces quelques versets, il n'y a pas moins de 12 références à Jésus. Regardez 1 Pierre 2, 7 et 8. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. C'est une façon de savoir si une personne est sauvée. Jésus est précieux pour elle. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Si Jésus n'est pas précieux à vos yeux, il sera sujet à trébucher pour vous. Il n'y a pas de juste milieu. Mon ami, si vous appartenez à Christ, vous êtes absolument spécial et Dieu vous aime. Il a envoyé son Saint-Esprit pour vous régénérer. Il vous réserve une place au ciel. Il vous a donné la vie éternelle. Oui, cela vous rend vraiment spécial. Quelle chose merveilleuse que d'avoir Jésus dans notre vie plutôt que d'avoir simplement une religion. Il ne s'agit pas de cérémonie, il ne s'agit pas d'attributs religieux, il ne s'agit pas de rituels. Il s'agit d'avoir une relation avec Dieu. C'est une chose extraordinaire. Dans le Nouveau Testament, citant un verset de l'Ancien Testament, Dieu dit « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Tout cela est possible grâce à ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Alors je voudrais simplement conclure en vous disant que Dieu vous aime. Si vous n'avez jamais ouvert votre cœur à Jésus, vous devez le faire aujourd'hui, vous devez le faire maintenant, vous ne le regretterez jamais.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.